BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrier.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. Je vais recevoir deux sages dans l'heure H, mais vous allez voir, ils n'ont pas pour autant la langue dans leur poche. Jacques Delarosière, qui est déjà en studio avec nous, ancien directeur général du FMI, ancien gouverneur de la Banque de France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous faites partie de ces quelques personnalités, ces faucons, qui avaient publié une tribune extrêmement critique vis-à-vis de la politique centrale de la Banque Centrale Européenne et de sa politique. Vous nous direz dans un instant pourquoi, et puis vous publiez les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier. Rien de moins. Je recevrai l'ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien patron de la Caisse des dépôts, Pierre-René Lema, et puis Jean-Pierre Le Tartre, qui organise son Davos de la responsabilité sociale, l'ex-patron d'EY. Mais pour l'instant, place à toute l'actualité avec Thomas Asportas. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. C'est l'actualité très riche en cette mi-journée. D'abord, l'OCDE qui avance sur sa réforme fiscale du numérique et des multinationales. L'organisation propose de donner aux États davantage de manœuvres pour taxer les géants du numérique, même s'ils n'ont pas de présence physique sur leur territoire. Ces nouvelles règles concernerait les entreprises qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont, je cite, une interaction durable et importante avec les consommateurs. Bercy se félicite de ces propositions et souhaite conclure un accord d'ici 2020. La France maintient son rythme de croissance à 0,3%. C'est ce qu'indique la Banque de France ce matin, avec une prévision confirmée à 0,3% du PIB pour le troisième trimestre, comme au premier et au deuxième trimestre. Le climat des affaires en septembre s'est amélioré dans le bâtiment, mais il a reculé dans l'industrie et les services. La Banque de France et l'INSEE attendent tous les deux 1,3% de croissance en France sur l'ensemble de l'année, un petit peu en dessous de la prévision gouvernementale de 1,4%. L'économie française donc qui résiste notamment aux tensions liées au Brexit, mais le gouvernement britannique pourrait lui déjà se fissurer à peine 2 mois et demi après son entrée en fonction. D'après la presse britannique, 5 ministres sont prêts à quitter Boris Johnson s'il impose une sortie sans accord le 31 octobre. Les discussions à Bruxelles en début de semaine entre Européens et Britanniques sont à nouveau restées dans l'impasse et Angela Merkel juge qu'un accord est maintenant extrêmement improbable. Et puis la situation reste très compliquée aussi pour Sylvie Goulard. La candidate française à la Commission européenne va être entendue demain une deuxième fois par le Parlement européen. Sylvie Goulard, vous le savez, doit lever les doutes sur les affaires des emplois fictifs au Modem et sur sa rémunération par un think tank américain quand elle était députée européenne. Le Parti populaire européen indique qu'elle est convoquée demain de 9h30 à 11h, qu'elle devra répondre à 13 questions et qu'une décision sera prise ensuite sur son aptitude ou non à être nommée commissaire. Et puis Bruno Le Maire, lui, en remet une couche sur la politique budgétaire allemande. Il appelle une nouvelle fois dans la presse locale à investir des excédents budgétaires pour soutenir la croissance. Vous savez que la rigueur budgétaire est inscrite dans la constitution allemande, mais Bruno Le Maire veut désormais, je cite, discuter intensivement du zéro endettement de nos voisins allemands. Dans l'actualité des entreprises, le calvaire d'EDF à Flamanville n'en finit pas. La facture du chantier grimpe encore de 1,5 milliard d'euros pour payer une opération de réparation de soudure exigée par l'ASN. Au dernier pointage, Flamanville va donc coûter 12,4 milliards d'euros pour une mise en service fin 2022, alors que le réacteur devait coûter 3,5 milliards d'euros et fonctionner en 2012. Journée difficile en bourse pour Plastic Omnium qui a abandonné plus de 8% dans la matinée, en cause la révision à la baisse des objectifs de marge opérationnelle de l'équipementier. Plastic Omnium explique cet avertissement sur résultat à cause des difficultés de démarrage de sa nouvelle usine américaine en Caroline du Sud. Et puis le groupe parapétrolier Bourbon indique avoir reçu une offre de reprise. Vous savez que l'entreprise est placée en redressement judiciaire depuis le mois d'août. Mais Bourbon a donc reçu une offre d'une société détenue par un groupe de banques françaises. Le groupe va maintenant étudier cette offre et demande la suspension de son titre en bourse. Et puis pour finir, un dernier mot de pétrole. Pour vous dire qu'Aramco prévoit de revenir fin novembre à sa capacité maximale de production de 12 millions de barils de jour. Vous vous souvenez que les attaques contre Aramco mi-septembre avaient coupé sa par deux sa capacité de production. BFM Business, il est midi 4. On retourne sur les marchés à la mi-journée qui sont dans le vert. Gagne 0,6% à 5489 points. L'euro-dollar, lui aussi, gagne un peu de terrain. Plus 0,21%. 1 euro s'échange pour 1,0982.
Merci Thomas. Bien sûr, on vous retrouve à 12h30 tout de suite. Est-ce qu'il faut changer de politique monétaire? On voit ça avec Jacques Delarosière et l'ancien gouverneur de la Banque de France.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Question du jour avec vous, Jacques Delarosière, merci d'être là, ancien directeur général du FMI, ancien gouverneur de la Banque de France. Et puis, j'ai envie de dire, bon pied, bon oeil, on vous traite de faucon, parce que dans une tribune au Vétriol, vous avez expliqué que la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne et Mario Draghi menait dans le mur. Vous nous direz pourquoi. Et en plus, vous publiez un livre un peu catastrophique qui appuie, il lui reste à dire, les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier. Et c'est chez Odile Jacob. Peut-être un mot d'abord, Jacques de la Rosière, sur les déclarations hier de la nouvelle directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Qu'est-ce que vous en pensez lorsqu'elle dit, un, les tensions commerciales sont en train de peser sur la croissance, et deux, on s'est trompé de politique?
Oui, je suis d'accord avec ce diagnostic. Je pense que l'incertitude qui règne en matière de tarifs douaniers, de rétorsions commerciales, est importante, parce que les incertitudes, ça pèse sur la croissance et sur la volonté d'investir. Et la deuxième chose qui a été dite par la nouvelle directrice générale du Fonds monétaire, c'est que la politique monétaire actuelle, les taux d'intérêt très bas, voire négatifs, pèse sur les décisions d'investir. Et pèse négativement sur les décisions d'investir. Alors je crois profondément en ces choses, et en particulier dans l'idée que c'est pas parce qu'on baisse les taux d'intérêt que les gens vont investir davantage. Quand vous baissez les taux d'intérêt, vous créez une appétence pour la liquidité, parce que les gens se disent, je vais être taxé si j'achète des titres, si je prends du capital dans une entreprise, je vais être taxé puisque je vais avoir un taux négatif. Tandis que si je reste en liquidité, si je mets mon argent en gros derrière mon oreiller ou je le laisse en banque, certes je ne serai pas rémunéré, mais au moins je n'aurai pas une taxe sur mes avoirs. Et cette préférence pour la liquidité, qui était la grande hantise de Keynes quand on baissait les taux, cette préférence pour la liquidité, elle se manifeste partout. Les statistiques sont écrasantes de ce point de vue-là. Et il en résulte que vous avez une préférence pour des placements très liquides, des titres d'État, notamment des pays européens, du Bund, qui maintenant sont très négatifs en rendement, et un désintérêt pour l'investissement réel, les infrastructures, l'énergie, parce que ça, c'est incertain.
Alors, vous écrivez dans votre livre, du reste, que ceux qui se disent héritiers de la pensée keynésienne et pu promouvoir l'existence prolongée de ces taux réels nuls ou négatifs, reste pour moi un mystère. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. En revanche, donc, j'ai reçu Frédéric Oudéa, donc le patron de la Générale, président de la Fédération bancaire française, ce matin. Jean-Pierre Mustier, qui lui est maintenant à la tête d'UniCredit, donc la première banque italienne, troisième banque allemande, président de la Fédération bancaire européenne. Ils nous disent tous, avec ces taux négatifs, nous, on va, c'est simple, on va taxer les dépôts à vue. Est-ce qu'on est en train d'arriver dans une impasse au niveau de la politique monétaire et avec des conséquences qu'ils n'avaient pas forcément anticipées?
Oui. Quand vous faites une politique monétaire très généreuse comme celle que nous avons eue depuis une dizaine d'années, il y a un moment où les taux d'intérêt arrivent à zéro. C'est ce qu'on appelle le lower bound, c'est-à-dire qu'on peut pas aller en dessous de zéro. Et alors la BCE a un peu innové en ce domaine, puisqu'elle est allée à -0,5 pour les dépôts que les banques sont obligées de faire à la Banque Centrale Européenne. Donc elles sont taxées. Alors ce que vous dites est très révélateur. Si on va plus loin encore que -0,5, si on baisse la garde, si je puis dire, encore plus... Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment où les banques vont être obligées de répercuter ces taxes sur les déposants. Et à ce moment-là, on arrive à une conclusion qui est très négative, c'est que les gens vont être incapables de consommer plus, puisqu'on leur prendra, par voie d'une parataxe fiscale, on leur prendra de l'argent. Donc on sent bien qu'en dessous de zéro, on a atteint la limite. On est dans l'impasse. Alors, il y a deux manières quand on est dans une impasse, où on en sort, où on persiste dans l'impasse. Et moi, je suis pour sortir de l'impasse. Je pense que maintenant, la politique de taux très bas, pendant très longtemps, a exercé ses effets. Certains étaient positifs au début, mais maintenant, on est arrivé à une impasse. Et il vaut mieux appeler un chat un chat, il vaut mieux reconnaître qu'il y a une impasse et se débarrasser d'un certain nombre de fantasmes qui sont qu'il faut absolument que l'inflation arrive à 2%, elle est à 1,5% mondialement, c'est excellent, et il ne faut pas se dire que 2% est un chiffre sacré et qu'il faudra créer de la monnaie et des taux négatifs jusqu'à ce que 2% soit réalisé. Donc je crois qu'il faut un peu plus de calme, de sérénité, de rationalité, radicalité dans l'examen des choses.
Et c'est vous qui dites ça, parce que la tribune que vous avez publiée était quand même extrêmement virulente. Qui est à l'origine de cette tribune révélée par nos confrères de Bloomberg?
Moi, je n'ai pas d'ailleurs signé cette tribune.
Non.
Il y a un certain nombre de signataires dont je ne fais pas partie.
Non, qui est à l'origine de cette...
Non, mais ce qui est à l'origine, c'est un certain nombre de gens, notamment d'anciens banquiers centraux, qui ne se reconnaissent pas dans la politique monétaire actuelle.
Ben comme vous, on est d'accord.
Et qui pensent que des taux zéro ou négatifs pendant très longtemps, ça a des effets négatifs. Alors ça a des effets négatifs sur le système bancaire, puisque la marge bancaire disparaît quand les taux sont négatifs. Et donc, on arrive à une impasse. Et ce qui me gêne le plus dans l'exécution de la politique monétaire actuelle et ses conséquences, c'est son impact sur l'investissement. Parce que quand on étudie un peu de près cette affaire-là et qu'on ne se met pas dans les stéréotypes hawkish, pas hawkish, etc., mais si on regarde les choses un peu raisonnables, de manière raisonnable, on voit que l'investissement diminue au profit de placements ultra-liquides. Et ça, c'est quand même, pour l'économie réelle, très dangereux. C'est ce que le Fonds monétaire dit aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait regarder ces choses-là avec plus d'équanimité et essayer de prendre des orientations qui permettraient de limiter les effets négatifs que j'indique. Et donc, c'est pas une question de faucon, colombe. C'est une question de comprendre la situation. Les mots stéréotypés sont souvent des empêchent de voir. Alors, la réalité.
Est-ce que si vous dites ça, c'est qu'un peu vous avez derrière la tête l'arrivée de Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne. Est-ce que vous lui dites qu'il faut faire attention avant qu'elle se précipite? Vous me direz, Mario Draghi a un peu tracé, en tous les cas, la politique pour les prochains mois, politique monétaire. Mais est-ce que vous dites, attention, il faut quand même faut bien regarder la situation?
Oui, je crois que c'est tout à fait ça. Madame Lagarde arrive, le terrain est compliqué, parce que vous avez eu une opposition de vue entre un certain nombre de participants au Conseil de la Banque Centrale Européenne, et il est normal qu'elle regarde la situation qui est compliquée, qu'elle voit le pour et le contre des positions qui ont été prises et qui sont assez tranchées sur l'avenir de la politique monétaire, et que on regarde, si vous voulez, pour le bien commun de l'Europe, ce qu'il faut faire. Et moi, je pense que la plupart des économistes qui se sont penchés sur ces questions pensent que si une politique monétaire très généreuse, très abondante, peut avoir du sens en période d'après-crise ou de crise, si elle est trop prolongée, elle a des effets négatifs sur le fonctionnement de l'économie. Et je pense que nous sommes dans cette situation où les effets négatifs apparaissent de plus en plus. Alors, ils sont indiqués par des organismes internationaux, le Fonds monétaire, la Banque des règlements internationaux. Je veux dire, il n'y a rien de choquant à ce qu'on regarde la situation telle qu'elle est.
Oui. Et une question, est-ce que vous avez été quand même un peu surpris par les dissensions qu'il y a eu au sein de la Banque Centrale Européenne, notamment avec certains banquiers centraux, dont le français, ce n'est pas un secret, François Villeroy de Galhau, en fait, n'était pas d'accord, et était même en désaccord avec le choix fait, les outils choisis par Mario Draghi lors de sa dernière réunion des banquiers centraux.
Non, j'ai pas été vraiment...
C'est un peu inédit.
J'ai pas été tellement surpris, parce que, si vous voulez, c'est une question de longueur dans les processus. Moi, j'avais compris que la politique monétaire avait été très, très abondante.
Oui, non, mais le fait que banquiers de la Banque de France et d'autres le disent, vous voyez, que ça se fasse, qu'ils le disent, parce qu'ils l'ont dit, c'est pas uniquement des indiscrétions de journalistes.
C'était pour marquer le coup, si vous voulez, devant une nouvelle vague d'accommodement de la politique
monétaire. Donc ils ont eu raison.
Qui ne semblait pas justifiée à beaucoup d'observateurs. Et donc, qu'est-ce que vous voulez, quand on pousse le bouchon très très loin, il y a plus de chances qu'il y ait de l'opposition. Et c'est ce qui est arrivé.
Oui.
Et je pense que c'est une bonne occasion de reprendre les questions à partir de
que vous posez dans votre livre, justement,
ben oui,
sur les 10 questions, et on les retrouve aujourd'hui. Peut-être, pour finir, quel bilan vous feriez-vous, faites-vous en l'occurrence, de Christine Lagarde à la tête du FMI ?
Oh ben,
vous, l'ancien patron du FMI.
Oui, elle a bien dirigé cet organisme dans une situation qui était compliquée, parce que la politique monétaire internationale, celle qui est faite par la Fed aux États-Unis et qui se propage par contagion au reste du monde, dicte un peu l'environnement financier dans lequel le Fonds monétaire agit. Et c'est cette politique-là qui, avec le temps, commence à s'user. Et donc, le Fonds monétaire est obligé aussi de s'apercevoir de cela. Et je pense qu'elle a fait du bon travail.
D'accord. Pardon, toute dernière question. Est-ce que ça vous paraît justifié ? On apprend ici ou là quand même des vagues de licenciements massifs en Europe. Même si la pyramide des âges fait que ça ne va pas être très violent socialement, il n'en demeure pas moins qu'on va vers une cure d'amaigrissement des banques. Est-ce que c'est logique ?
Écoutez, les banques européennes représentent les trois quarts du financement de l'économie. Mmh. Les banques américaines représentent un quart du financement de l'économie américaine. Donc nous sommes très exposés. Et si la politique monétaire arrive à concevoir que les taux d'intérêt négatifs doivent rester là pendant très longtemps, ce qui est la politique actuelle, vous perturber le compte d'exploitation des banques. Et donc, les banques sont en difficulté de ce fait. Alors, elles réagissent assez bien, mais il faut aussi qu'elles réduisent leurs coûts.
Ouais.
Et c'est une des raisons de ces vagues de licenciements donc, que vous indiquez.
Et en plus, il y a, comme vous le dites aussi, parce que vous faites un bilan extrêmement négatif de Bâle 3. Hein. Vous dites, attention, on ne peut pas imposer des règles complètement absurdes qui pénalisent notamment les banques européennes. Il faut savoir un peu ce qu'on veut. Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier chez Public chez Odile Jacob. Merci Jacques Delarosière.
Merci
d'avoir
beaucoup.
Été avec nous dans un instant. C'est l'ex-patron d'EY, Jean-Pierre Le Tartre, qui sera avec nous. On va parler de responsabilité sociale, mais aussi de compétitivité. Surtout, restez dans le RH.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est l'ex-patron d'EY, l'EY France, hein, pour être exact, Jean-Pierre Le Tartre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tout d'un coup, je me suis dit, non, c'est pas l'ancien patron d'EY, c'est l'ancien patron d'EY France. Et aujourd'hui, vous êtes président du World Forum for Responsible Economy, j'avais dit responsabilité sociale
l'entreprise.
De l'entreprise. Jean-Pierre Le Tartre, beaucoup de questions à voir avec vous de ce forum que vous organisez. Vous allez voir, j'ai une petite question, une petite interrogation, on va dire.
Ouais.
Mais d'abord, ça vient de tomber, c'était juste avant qu'on entre en studio. L'OCDE a avancé sur sa réforme fiscale, sur la taxe des GAFA, puisque c'est à eux qu'on avait confié cette dure tâche. Alors, elle propose de donner aux États davantage de manœuvres pour taxer les géants du numérique, même s'ils n'ont pas de présence physique sur leur territoire. Et puis, ça toucherait des entreprises de plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va voir un peu les contours précis. Mais l'enjeu pour vous, il est où ? Parce que vous connaissez par cœur ces questions.
Oui, en fait, l'enjeu de ce sujet, c'est comment on trouve, où est la création de richesse, pardon, excusez-moi, où est la création de richesse ? Comment on localise la création de richesse pour servir de base fiscale, puisque la fiscalité s'applique sur la création de richesse. Et c'est vrai qu'avec les plateformes, le développement du digital, au fond, il y a une question de localisation. Avant, on avait des usines, des magasins, on savait où se créait la richesse. Aujourd'hui, elle peut être dans le cloud, elle peut être non plus territorialisée.
Mmh. Mmh.
Donc il faut effectivement trouver d'autres systèmes de taxation de la création de richesse. Je pense que c'est donc une bonne idée d'avancer vers cela. Ce qui m'inquiète un peu dans ce que vous dites, c'est que c'est de laisser, au fond, une certaine liberté au pays. Or, on sait que le sujet, il est très international.
Ouais, mais en même temps, il y a une approche unifiée. C'est-à-dire qu'on essaierait de trouver un cadre unifié.
Il faut que ce soit unifié pour pas qu'il y ait de compétitivité entre les États sur ces sujets-là. Et puis, il faut être à la dimension géographique de ces grands groupes qui est international.
Ouais. Mais est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose ? Moi, c'est toujours ma question, quoi. Est-ce que ça sert ? Enfin, oui, ça sert, évidemment.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'ils vont pas trouver d'autres moyens d'évitement ? Par rapport à cette taxe ?
Écoutez, je pense qu'on a besoin de justice fiscale.
Mmh.
On a besoin d'avoir une réconciliation entre le citoyen et l'impôt. pas uniquement en France, mais dans le monde entier. Il y a quand même à gérer les inégalités qui se creusent. Il y a un certain nombre de sujets. Je suis toujours un libéral et en faveur de la libre entreprise, mais elle ne fonctionne que si elle est dans un environnement qui traite chacun des citoyens et des contribuables de façon relativement faire.
Oui, mais vous pensez qu'elles vont se plier à ça lorsqu'on voit Google là sur les droits voisins, enfin la manière dont ils ont claqué le gouvernement français. Vous vous dites bon.
C'est le rôle des États et des organisations internationales de faire que effectivement la loi soit appliquée. Mmh. Vous pouvez constater quand même que sur ces dernières années, le combat contre la fraude fiscale et en France et dans le monde a beaucoup progressé.
Oui, c'est sûr, c'est vrai. Enfin, on verra si vous avez raison. Jean-Pierre Le Tartre, vous organisez ce forum, c'est presque contradictoire, ce Davos de la responsabilité dans l'entreprise, de la raison d'être, autour de ces nouveaux thèmes. Mais est-ce que c'est compatible, d'abord, avec le mot Davos ? Rien n'est moins sûr. Mais est-ce que c'est compatible aussi avec plus de compétitivité, la France qui avance dans les classements que vous connaissez bien, parce que EY était vraiment le principal donneur de tous ces rankings internationaux. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ?
Alors, la réponse est clairement oui.
Oui. Ah, merci. J'ai eu peur que... Si vous m'avez dit non, là, je pense que ça serait mal passé.
La réponse est clairement oui, mais je vais vous le démontrer. En fait, la question, elle est qu'aujourd'hui, la question de l'enjeu sociétal de l'entreprise, du changement climatique, de la responsabilité sociale, est au cœur de la stratégie. Ça fait partie de l'opérative modèle. Aujourd'hui, pour se développer, pour être compétitif, il faut aussi que l'entreprise prenne en compte l'impact qu'elle a sur le territoire sur lequel elle exerce. Et je pense qu'aujourd'hui, ça monte à toute allure. Et on a plein d'exemples aujourd'hui qui le démontrent. Si vous prenez simplement, et ça existe depuis quelques années, vous prenez les appels d'offres publics, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres, il y a des conditions de respect d'un certain nombre de règles environnementales pour l'attribution du marché. Vous prenez l'ensemble du marché de l'immobilier et comprendre un tas de clauses de ce type. Donc aujourd'hui, dans la grande distribution, dans le B2C, aujourd'hui, le consommateur va être de plus en plus exigeant par rapport à ces questions d'impact social et environnemental. Et les entreprises qui auront intégré ça dans leur business model, dans leur operating model, y trouveront leur compte. Même pour le recrutement. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, dans les écoles, le premier critère de choix des étudiants, c'est comment l'entreprise respecte son rôle sociétal dans la société. Avant la rémunération, avant la progression de carrière, avant tout ce que vous pouvez imaginer, ce qu'on pouvait imaginer avant. Donc aujourd'hui, oui, je dirais le développement de l'entreprise et quelquefois même sa survie va dépendre de la prise en compte qu'elle prendra de son impact sur le territoire.
Ouais. La raison d'être. Hein, ouais. D'accord. Maintenant, c'est la loi PAC, c'est important. Il y a aussi, vous allez en parler beaucoup. Hein, évidemment. Est-ce que ça a changé ? Parce que moi, quand je regarde les raisons d'être des entreprises, j'ai un peu de mal. Enfin, on y met tout et son contraire. Hein, on n'y met rien, quoi.
Ouais, Non, mais je pense, si vous voulez, que en dehors de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on peut déclarer dans des chartes, des raisons d'être, dans tout ce qu'on peut parler,
les paroles, les actes, on a plutôt envie de
la question, c'est comment on démontre qu'effectivement on le fait dans la réalité et dans le quotidien. Moi, je suis pour, j'avais dit ça beaucoup chez EY, en fait, l'important, c'est surtout pas de dire ce qu'on va faire, c'est le make it happen. Qu'est-ce qu'on fait
Make it happen.
Comment on fait pour que ça se passe au quotidien, dans les actions, au day-to-day, dans la relation entre le manager et son collaborateur, dans l'usine, dans le magasin, dans le bureau. Donc, il faut que ça se passe au quotidien. Et c'est comme ça, de toute façon, croyez bien que le consommateur, comme les collaborateurs, ne sont pas dupes de ces sujets-là et que si jamais vous racontez des choses que vous ne faites pas, les réseaux sociaux se chargent de vous le dire.
Oui. Et le forum que vous faites, parce que là aussi on est dans les paroles, en l'occurrence, comment vous allez éviter ce travers et surtout sur quoi vous allez travailler quoi.
D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce forum existe depuis 13 ans.
Oui.
Il n'a pas été créé par la loi PAC.
Non, on est d'accord, mais on en parle un peu plus maintenant parce que c'est vrai que c'est dans l'air du temps.
Ceux qui l'ont créé il y a 13 ans étaient bien en avance sur les besoins de la société. Donc on va être justement très axé sur le make it happen, sur la réalisation. On a Bertrand Piccard qui vient, vous savez, lui,
on connaît bien,
il l'a fait, lui. Il a bien dit ce qu'il avait fait, il a fait son avion solaire, il a existé. Et aujourd'hui, il lance plein d'initiatives sur le climat. On a...
C'est intéressant qu'on raconte... Pardon, non, mais parce que sur Bertrand Piccard, ce qu'on ne raconte pas assez, moi je trouve, c'est tout l'écosystème qu'il a créé autour de sa fondation. C'est-à-dire, il y a des tas de start-up
Exactement.
Qui fait qu'il essaie...
Il est dans la réalisation. Il est pas dans l'incantation, il est
Il n'est pas dans le people, voilà. Parce que c'est devenu un peu un people, hein, pardon, mais il se passe vraiment quelque chose derrière.
Il y a Heidi Solba aussi, vous savez, celle qui a créé le Clean Up Day, qui est aussi un mouvement de sensibilisation et effectivement qui aujourd'hui draine une population importante. Il y a aussi le Dol Dougherty, voilà, que je connais pas mais que j'ai découvert, qui fait aussi, vous savez, tous ceux qui font par eux-mêmes, les makers en fait.
Ouais.
Donc on a orienté véritablement sur, voilà, il faut que ça se passe et qu'on montre des réalisations.
Oui, c'est ça le problème. Est-ce que vous trouvez qu'est-ce que vous pensez du phénomène de Greta Thunberg? Il y a même certains qui disent qu'elle devrait avoir le prix Nobel de la paix. Je ne sais pas, je ne veux pas forcément dire là, c'est pas ma place, ce que j'en pense, mais vous en pensez? Vous auriez pu l'inviter? Par exemple,
oui, pourquoi pas.
Au-delà du phénomène médiatique.
Pourquoi pas. Je pense qu'elle est. J'ai pas envie de dire. Je connais pas suffisamment pour porter un jugement. Je pense qu'elle est très révélatrice de la sensibilisation très forte qu'il y a aujourd'hui des jeunes générations et pour les mes générations de la responsabilité qu'on porte. Et on le voit. J'ai pas besoin de Greta pour ça. Je le vois chez mes enfants, chez mes petits enfants, chez les amis de mes enfants. Et qu'est-ce que vous faites là? Quelle est votre responsabilité et qu'est-ce que vous faites pour le futur?
Jean-Pierre Tarte, dernière question, parce que vous venez souvent nous ici justement pour parler de ces fameux classements de compétitivité. La situation de la France s'améliore quand même?
Oui, la situation de la France s'améliore. Vous savez, j'ai une théorie, moi je pense que c'est le moment de la France.
D'accord. C'est le moment de la France.
Même par rapport à ces sujets, la France est un pays quand même qui, en termes de carbone, est loin d'être la pire des nations, loin de là, qu'en termes de qualité de vie, a beaucoup d'atouts. Et donc, effectivement, sur beaucoup de sujets, c'est peut-être le moment de la France.
Voilà, je vais retenir ça. Le moment de la France. Merci beaucoup. Et puis, forum en l'occurrence. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. C'est un autre sage, Pierre-René Lema. Il était patron de la Caisse des dépôts. Il était secrétaire général de l'Élysée. Il publie un livre très intéressant. Très, très personnel, mais très intéressant sur ce que lui, il a vécu, lui, le préfet de gauche. Et vous allez voir, si je dis ça, c'est pas complètement neutre. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Des princes ou des gens, portrait de ceux qui nous gouvernent et ce que gouverner veut dire. Pierre-René Lema, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci. J'ai rappelé à l'instant vos fonctions, je les rappellerai tout à l'heure. On va se retrouver juste après le rappel d'été de Thomas Aspartas dans un livre que j'ai trouvé très très intéressant. Il y a plein de petites leçons, puis notamment il y a un petit portrait d'Emmanuel Macron, un petit bijou. On voit ça dans un instant.
Le rappel des titres pour l'heure est l'OCDE qui avance sur sa réforme fiscale du numérique et des multinationales. L'organisation propose de donner aux États davantage de manœuvres pour taxer les géants du numérique, même s'ils n'ont pas de présence physique sur leur territoire. Ces nouvelles règles concerneraient les entreprises qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont, je cite l'OCDE, une interaction durable et importante avec les consommateurs. Bercy se félicite de ces propositions et souhaite conclure un accord d'ici 2020. La France maintient son rythme de croissance à 0,3%. C'est ce qu'un dit la Banque de France ce matin avec une prévision confirmée à 0,3 points du PIB pour le troisième trimestre, donc comme au premier et au deuxième trimestre. Le climat des affaires en septembre s'est amélioré dans le bâtiment, mais il a reculé dans l'industrie et les services. Sylvie Goulard va être entendue demain une deuxième fois par le Parlement européen. La candidate française à la Commission européenne est convoquée jeudi, donc de 9h30 à 11h. Elle devra répondre à 13 questions et une décision sera prise ensuite sur son aptitude ou non à être nommée commissaire. Et puis pour finir, dans l'actualité des entreprises, le calvaire d'EDF à Flamanville n'en finit pas. La facture du chantier grimpe encore de 1,5 milliard d'euros pour payer cette fois une facture de réparation de soudure exigée par la SN. Au dernier pointage, Flamanville va donc coûter 12,4 milliards d'euros pour une mise en service pas avant fin 2022, alors que le réacteur devait coûter au départ 3,5 milliards d'euros et fonctionner en 2012. BFM Business, il est bientôt midi 33. Le CAC à la mi-journée, je vous le redonne, qui gagne un peu de terrain, gagne 0,74% à 5 497 points, juste en dessous des 5 500 points. L'euro-dollar est aussi dans le vert, 0,20%. 1 euro s'échange pour 1,0982.
Merci Thomas. Dans un instant, Pierre-René Lema. Il a traité du reste beaucoup de sujets dont vous parlez à l'instant, lorsqu'il était secrétaire général de l'Élysée, notre invité pour ce que gouverner veut dire. Vous allez dire, il y a plein de choses. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Pierre-René Lemas, rebonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, vous êtes président de France Active, mais vous avez été, on s'en souvient, vous étiez venu ici même, directeur général de la Caisse des dépôts, que vous avez quitté avec mélancolie, vous le rappelez du reste dans votre livre, et puis, bien sûr, ancien secrétaire général de l'Élysée. Et puis, vous dites, j'ai été, parce que vous publiez un livre, alors honnêtement, que j'ai trouvé, vous voyez, très cash, très intéressant, très personnel, évidemment, surtout votre parcours, quand vous quittez l'Algérie, quand vous êtes un petit enfant, quand vous arrivez à Montparnasse avec votre oncle et votre tante parce que votre père a été victime d'un attentat, donc il est soigné à Lyon, et vous dites, ben moi, c'est simple, il n'y a pas de place pour moi à l'école parce qu'il n'y avait pas de place pour ceux qui arrivaient d'Algérie. C'est incroyable, je ne savais pas que c'était le cas en l'occurrence. Mais il y a aussi, vous racontez un certain entretien d'embauche avec un jeune conseiller qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a été votre adjoint à l'Élysée. Petit portrait assez truculent. Des princes et des gens, ce que gouverner veut dire, et c'est au seuil. Mais il y a quand même une petite phrase, moi j'ai trouvé amusante. Vous dites, voilà, vous êtes un grand fonctionnaire, un haut fonctionnaire, comme on dit. Mais quand on est un de gauche, que vous êtes un gaulliste de gauche, eh ben, on reste un préfet de gauche. Et quand on est un fonctionnaire de droite et qu'on a exercé vos fonctions, on est un grand commis de l'État. Mais on ne peut pas être un grand commis de l'État de gauche. Donc vous restez un préfet de gauche. C'est vrai ça, à ce point-là ?
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, je oui. reprends ce que me disait un jour, d'une manière un peu ironique, quelqu'un.
C'est vous qui l'écrivez, ouais, c'est pour ça.
C'est un peu vrai, oui. Mais ça me gêne pas, moi je suis un commis de l'État depuis très longtemps.
Oui. Alors il y a beaucoup de choses, parce que vous rappelez, vous dites que vous connaissez presque la moindre route départementale de France, que vous avez énormément sillonné la France lorsque vous étiez préfet, en Lorraine, ensuite on s'en souvient, vous avez travaillé sur le dossier Florange, donc vous connaissez très bien l'Hexagone. Et puis vous dites une phrase qui est très intéressante en ces jours de préparation budgétaire, hein. Vous dites, il y a vraiment une chose qui est totalement absurde, c'est de supprimer la taxe d'habitation, ce que fait Emmanuel Macron, et c'est même le fer de lance de sa politique fiscale. Expliquez-nous pourquoi ces propos quand même assez durs.
Oui, enfin, les gens sont toujours contents qu'on supprime un impôt. Hein.
Oui, non, mais pourquoi d'où vous parlez de préfet, de patron de la Caisse des dépôts, pourquoi c'est absurde?
Je vais vous dire, parce que là, à mon avis, les gens ont envie qu'on supprime ou qu'on diminue un certain nombre d'impôts quand ils ne savent pas à quoi ça sert. Et d'une manière générale, les impôts nationaux pour des fonctions globales, les gens ont du mal à comprendre à quoi ça sert. Tandis que la taxe d'habitation, c'était une taxe que vous payez parce que vous habitez dans une ville, que vous habitez dans une commune, dont vous savez qu'elle va être utilisée par votre conseil municipal, celui que vous élisez régulièrement aux élections municipales, et vous savez à quoi ça sert. Vous savez que ça sert à refaire une route, à mettre un feu rouge, à organiser le marché, à faire des travaux. Et moi, je trouve que garder un lien entre l'impôt que vous payez et de l'autre, ce à quoi sert l'impôt que vous payez, pouvoir le voir, c'est extrêmement important d'un point de vue citoyen. Voilà pourquoi je trouve que c'est pas forcément la meilleure idée.
Une étrange idée. Vous dites, l'élu d'un territoire est choisi par ceux au milieu desquels il vit. Il doit pouvoir décider de ce qui fait la vie quotidienne, le feu rouge, le marché, le logement et l'occupation des sols. Est-ce que justement, est-ce qui explique peut-être ces gilets jaunes, on a perdu ce lien? Paris est devenu une espèce de hydre qui aspire tous les pouvoirs, et la quintessence étant cette suppression de la taxe d'habitation.
Moi, je le crois un peu. On est dans un pays très paradoxal, parce qu'on a fait la décentralisation il y a 20 ans, et donc on a donné du pouvoir au niveau territorial, aux élus des communes, des départements et des régions. Et il fallait le faire, c'est une vraie réforme. Bon. Et puis, au fur et à mesure du temps, au fond, les pouvoirs publics se sont tous dit, toute majorité confondue, tout ça c'est bien, mais je perds des leviers. Et donc, il y a une tendance à la recentralisation des gouvernements de gauche comme des gouvernements de droite, qui est continue depuis une vingtaine d'années. Et puis on a trois phénomènes. Le premier, c'est les administrations centrales à Paris et le gouvernement, à la recherche de leviers, veulent pouvoir s'occuper de ce qui se passe en région, je comprends. Deux, les régions, surtout avec la réforme régionale il y a quelques années, sont devenues elles-mêmes jacobines.
Ah bah totalement, vous avez vu le rapport de la Cour des comptes, j'imagine.
Voilà. Mais indépendamment des affaires de coûts, quand vous
oui,
êtes...
Oui, ça veut dire plus de gens, donc ça voilà. veut dire, voyez, c'est...
Vous avez une région comme le Grand Est, par exemple, ouais. vous êtes à Châlons-en-Champagne, et votre capitale régionale, c'est à Strasbourg, franchement, c'est plus loin de Paris.
Ouais.
Et puis, et donc du coup, vous avez... Et puis vous avez un troisième phénomène que tout le monde trouve formidable, mais auquel on ne réfléchit pas sous l'angle que je dis, qui sont les métropoles, la métropolisation. Donc vous avez une volonté collective aujourd'hui de dire, il faut, c'est entre guillemets, que les métropoles deviennent à l'échelle européenne. Alors, les plus prétentieuses d'entre elles disent à l'échelle mondiale. Voilà. Et d'ailleurs, en France, vous avez plus de métropoles que dans tous les pays de la communauté européenne réunis, hein, parce que toute grande ville veut être une métropole.
France, oui.
Et donc, du coup, autour de ces métropoles, qui sont utiles, hein, il faut créer de l'activité, de l'emploi, polariser la recherche, etc. C'est très utile, mais il y a le risque de recréer tout autour, et on l'a vu au moment des Gilets jaunes, une France qui se sent un peu perdue, quoi. Qui est la France des petites villes, celle que je connais par cœur.
Voilà, celle que vous connaissez par cœur.
Moi, je la connais par cœur, cette France des quartiers. On en a beaucoup parlé, des quartiers. Mais on peut refaire des politiques de quartier.
Mais est-ce que c'est pas passé, ce que me disait quelqu'un ?
La France des villages.
Oui. Ouais. Est-ce que justement, il faut faire une croix sur la France des villages, la France des...
Bon,
moi je ne pense pas, mais j'ai discuté avec un grand décideur de l'État en disant c'est terminé ça, maintenant c'est la France des métropoles.
Moi j'y crois pas du tout. Je raconte une anecdote qui est très ancienne. À l'époque où j'étais préfet de la région Lorraine, il y avait des tas de problèmes en Lorraine, et notamment le fait que des villes étaient très malheureuses, avaient des problèmes économiques et surtout avaient des problèmes physiques. Le sol des villes s'écroulait parce qu'il y avait des mines autrefois et qu'il n'y a plus de mines.
Ouais.
Bon. Et un conseiller technique d'un cabinet ministériel a eu cette phrase glaçante. Il me dit mais pourquoi ces gens ne vont-ils pas vivre ailleurs ? Moi, je l'ai regardé, je suis plutôt bavard comme garçon, mais j'étais presque bouche close. Alors, je ne savais pas quoi lui dire, moi. Que c'était leur vie, leur maison, leurs enfants, leur pays...
C'est la mobilité, vous savez bien, il faut bien la mobilité, c'est important.
La mobilité, c'est formidable, le monde nomade, je reconnais la pertinence du regard de beaucoup de sociologues sur le monde nomade, mais le problème, c'est que les gens, ils sont de quelque part. Moi, je suis un très grand admirateur de Brassens qui se moquait des gens qui sont de quelque part. Être de quelque part, ça ne veut pas dire être bête et chauvin. Mais les gens ont envie d'être chez eux. Et moi, je crois que dans les espaces immenses de la France est un petit pays à l'échelle mondiale, on l'a tellement dit, j'y crois pas une seconde, la France est un immense territoire. Et c'est un immense territoire vide. Car notre démographie est ce qu'elle est. Il est vide, notre territoire. Vous avez des endroits, et pas seulement en Corse ou dans le Cantal, où le taux de...
Non, il y en a aussi dans le Vaucluse.
Voilà. Et donc, moi, je crois que la vraie réponse, elle est dans la recréation d'une politique d'aménagement des territoires. Voilà.
Ouais.
Il faut repenser l'aménagement des territoires à l'ère du numérique, à l'ère de l'économie nouvelle, à l'ère des start-up. C'est ça, la réponse. Et on voit bien, d'ailleurs, que là où se crée de l'activité économique, c'est souvent dans les écosystèmes locaux. Quand vous avez des communautés de communes, avec leurs assemblées consulaires, les assos, les petits patrons, voilà, tout ça se dit, mettons-nous ensemble pour créer de l'activité et de l'innovation. Je vais vous dire le fond de ma pensée, je pense que cette vieille France peut être disruptive.
Voilà, elle peut devenir, l'ancien monde peut devenir le nouveau monde, parce que le nouveau monde est en train de devenir l'ancien monde. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que celui, on va revenir après là-dessus, bien sûr, celui que vous avez embauché, là, désormais président Macron, il a compris la leçon ? Un conseiller m'a dit cette phrase, parce que je crois que c'est le président qui l'avait dit, il s'est pris, avec les gilets jaunes, il s'est pris un TGV dans la figure. Vraiment, il est choqué. Et lui-même, il est encore revenu, là. Il a dit, voilà, j'ai vraiment compris des choses. Est-ce que vous pensez qu'il a compris ce que vous êtes en train de nous expliquer ?
Moi, je, à la fois, je le crois et je l'espère. On a bien vu au moment des gilets jaunes que, il y a eu, de sa part, un certain nombre de choix politiques et de choix économiques. C'est d'ailleurs très, très intéressant d'observer la manière dont on peut commenter ces choix économiques et ses choix politiques. Sous d'autres gouvernements, quand on change de politique ou quand on passe une politique de l'offre qu'on atténue, par une politique de la demande et de relance de la consommation, en général, la presse économique titre « le tournant ». Là, ce n'était pas un tournant, c'était une inflexion. Mais il y a quand même eu une évolution. La politique économique n'est plus la même dans la deuxième partie du quinquennat. Alors, le reste, c'est de la psychologie. Et ça, moi, je ne sais pas répondre. En tous les cas, j'ai compris que le président de la République souhaitait être plus proche des Français. C'est pas mal, c'est bien.
Juste avant de passer à son petit portrait, parce que vous avez une phrase que je trouve absolument délicieuse, c'est ce fameux conseiller. Alors, vous en parlez un peu tout le temps. Lorsque vous alliez à Matignon, vous, le préfet, pour aller expliquer justement ce que vous venez de nous dire sur ceux qui habitaient sur les anciennes mines, etc., à qui on disait qu'il fallait bouger. C'est un peu glaçant, le portrait de ces conseillers à Matignon et même à l'Élysée, puisque vous avez recruté quand même. Et vous dites, il y a aussi l'influence de quelques conseillers ici des corps de l'État, relais de leur technicité, de leurs préjugés, le plus souvent forgés dans le moule d'une pensée commune, parfois rigide, parfois désinvolte, dans leur certitude. C'est sévère, hein, quand même. C'est ça, les conseillers qui prennent des décisions, parce que leurs ministres, je veux dire, finalement, ils sont au-dessus.
C'est, comment vous dire, dans mon équipe de l'Élysée, je le dis d'ailleurs, j'avais des gens absolument formidables, et je le pense vraiment, hein, je vais pas raconter de... Je pense vraiment qu'il y avait des gens formidables. Mais dans les cabinets ministériels, vous avez toutes sortes de gens. Vous avez des militants. Alors parfois, ils ne connaissent pas grand-chose à l'État, mais ils ont des convictions. Et puis, vous avez des techniciens, parce que c'est l'usage. Dans les grands ministères, à Matignon, on fait venir des gens qui viennent des grands corps de l'État, souvent, qui sont peut-être bien faits, intelligents, premier de l'ENA, formidables, futur gendre idéal et futur directeur d'administration centrale ou patron d'entreprise, mais qui sont à une phase, j'allais dire, qui est compréhensible, qui découvre les choses, quoi. Et souvent, ils ont une pensée qui est, je dis ça plus loin, une pensée que j'appelle dans l'air du temps. L'air du temps aujourd'hui, c'est quoi ? L'air du temps aujourd'hui, c'est d'être libéral et favorable aux réformes. Donc ils sont libéraux et favorables aux réformes. Et donc ils essayent, d'une manière en général très compétente, de mettre ça en place. Alors effectivement, ça finit par être un peu rigide. Ils sont favorables aux réformes. Ils peuvent le faire avec force, ils peuvent le faire en rigolant, hein, avec désinvolture, en disant il va de soi qu'il faut modifier le cadre. Il y a 20 ans, c'est l'avantage et l'inconvénient d'être vieux, il y a 20 ans ou il y a 25 ans, les mêmes dont j'étais, l'air du temps, c'était pas le même. L'air du temps était un air du temps à gauche.
Oui, bien sûr.
Ils étaient un peu marxistes, pas vraiment. Mmh. Ils étaient plutôt à gauche.
Ils étaient un dinosaure, Pierre-René Lemar.
On était pour le rôle de l'État. On n'était pas du tout pour la dérégulation du marché du travail. C'était une horreur absolue. On avait un peu Luc Haynes, on connaissait un peu. On était formés dans ce moule-là. Et moi, je suis très frappé du fait que depuis quelques années, beaucoup de mes jeunes collègues, je les vois tout le temps, sont formés dans un moule libéral, j'allais dire. À mon époque, on était formés sur un marxisme corrigé Giscard. À l'époque d'aujourd'hui, on est formés sur un libéralisme corrigé Blair.
La troisième
voie.
C'est
un peu... À mon avis, c'est un peu dépassé par rapport à la réalité des choses et à la réalité des besoins. Et parfois, faut les pousser, quoi.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous expliquez bien... On voit bien tous les blocages de décisions, pourquoi, comment les décisions, les lois sont préparées. Ça fait un peu froid dans le dos, même si on le sait, parce que vous racontez ça à l'intérieur, parce que ça a été votre vie, hein, Pierre-René Lemar. Mais en même temps, il y a aussi un point, on sent que ça vous a énervé, vous, le préfet, donc... de la province, parce que c'est ça que vous représentiez lorsque vous arriviez à Matignon. On vous disait, mais vous êtes un technicien, vous n'avez pas le sens politique. Alors le politique, il est passé au-dessus de tout, et donc il sait tout, même s'il ne sait rien.
Ben ça, c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit, je n'ai pas découvert ça hier matin.
Non.
Mais il y a une espèce de dialectique compliquée entre le fonctionnaire, le haut fonctionnaire, et les fonctionnaires d'ailleurs en général, et le politique. À la fois, il est nécessaire, il est même indispensable, soit le politique qui pilote, il n'y a pas d'autre légitimité, c'est comme ça, voilà. Et après tout, le ministre de l'Agriculture, il n'a pas forcément besoin d'être agriculteur. Mais d'ailleurs, souvent, ça ne marche pas, quoi. Il est agriculteur, pour prendre cet exemple. Et puis, vous avez l'administration elle-même, qui est à la fois sujette et acteur. Elle doit obéir, mais en même temps, elle propose, elle met en œuvre, puis elle n'obéit pas toujours. Bon. Et cette
l'état profond, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron.
Oui, voilà.
Enfin, c'est pas lui qui l'a inventé, mais...
Non, voilà, oui, l'état profond, c'est comme la deep tech. On a cette dialectique entre les deux. Et parfois, comment dire, c'est assez... c'est pour ça que j'ai voulu le raconter plutôt que l'analyser. C'est quelque chose d'assez complexe.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que vous prenez les grandes administrations financières de l'État, au fond, elles ont un tel sens de l'intérêt général. Et je n'ironise pas, elles ont le sens de l'intérêt général. Mais en même temps, ce sens de l'intérêt général les conduit parfois à dire qu'il faut empêcher les ministres de faire des bêtises.
Oui, c'est clair. Oui, c'est bien ce que gouverner veut dire. Hein. C'est bien l'objet de votre livre. Bon, alors quand même, je ne résiste pas. L'entretien d'embauche d'Emmanuel Macron à l'époque. Donc, vous êtes au Sénat, vous êtes directeur de cabinet du président, et François Hollande qui vient d'être investi vous dit tiens, il faut que tu me rejoignes à l'Élysée. Donc, vous faites passer des entretiens d'embauche. Puis il y a une pression très très forte pour embaucher un petit jeune qui s'appelle donc Emmanuel Macron. La première impression que vous avez eue, c'est quoi? Vous êtes honnête,
je le raconte d'ailleurs. Oui. Je crois que la première impression que j'ai eue, d'abord, j'ai eu une impression avant de le voir, que tout le monde m'avait dit c'est un garçon formidable. Donc forcément, quand on vous dit c'est un garçon formidable et qui a toutes les qualités, vous vous dites bon, je vais voir quoi. Voilà. Oui. J'ai un scepticisme, comme on dit dans le milieu financier, de bonne alloi. Quand je l'ai vu. Et moi, je le voyais pour la première fois, alors que beaucoup de gens de la campagne de François Hollande, à laquelle j'ai pas directement participé, le connaissaient par cœur. Franchement, j'ai été séduit, moi, je le dis d'ailleurs. J'ai été séduit parce que il avait un côté brillantissime, quoi.
Vous dites, quand il vous regardait avec ses yeux bleus fixés dans les vôtres, le visage impassible, vous écoutant avec attention, vous pouviez avoir le sentiment qu'en cet instant, rien d'autre n'était important et que vos propos méritaient cet intérêt exclusif. Mais il pouvait aussi vous jeter un regard fixe et froid s'il se sentait froissé. Alors, à l'Élysée, vous racontez que c'était compliqué parce que vous étiez plutôt des hommes de l'ombre. En tous les cas, c'est votre conception d'un conseiller du président. On vous l'a reproché lors d'un fameux documentaire où on vous voyait tous en gris, etc., etc. Et lui, dans ce clair-obscur des conseillers, lui, il était le seul à prendre la lumière. Donc, ça avait le don de vous exaspérer, hein, appelant un chat, Pierre-René Lemar. Et vous avez cette phrase. Mais, à la réflexion, je ne suis pas certain que le président d'aujourd'hui aurait longtemps supporté Emmanuel au sein de son cabinet. Bon, ça c'est la petite patte assez drôle. C'est vrai que c'était insupportable.
Oh, insupportable. Je suis malicieux là. Si vous y êtes attentif, vous verrez. J'ai beaucoup de respect pour les fonctions, c'est-à-dire le président de la République, Sarkozy, Hollande, tant qu'ils sont présidents de la République, Macron, je dis rien ou à peu près. Rien. Je parle de quand ils ne le sont pas. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai une conception de cabinet qui m'a été enseignée par Pierre Jox. Et qui est... le cabinet n'existe pas. On n'existe pas. On est les pseudopodes du ministre. Il y a le ministre, et puis il y a l'administration. Et puis entre les deux, il y a des gens qui font passer les messages du ministre et vice-versa. J'ai jamais pensé qu'un membre de cabinet avait la moindre légitimité. Alors j'avais fait le choix à l'Élysée, et c'était le choix du président Hollande, instruit par l'expérience, d'être Mr. Nobody. Donc moi j'étais Mr. Nobody, personne ne sait que j'existe, et je m'en porte pas plus mal. Et la plupart de mes collaborateurs, c'était un peu ça.
Enfin, il y en a quand même quelques-uns, il y en a quand même un avec ses chaussures, bien sûr.
Mais ce que je dis, c'est que quelques-uns...
Vous avez été dépassé par vos événements.
Oui, mais vous voyez cette, dans cet univers-là, où au fond, vous acceptez une certaine forme, au fond, d'austérité, de grisaille. Vous assumez la grisaille. Il y a des gens qui ne supportent pas. Et puis, dont ce n'est pas le tempérament. Et qui essayent de prendre un bout de lumière. Et je dois dire que Emmanuel prenait... Je parle d'Emmanuel, et non pas du président Macron. Emmanuel prenait formidablement bien la lumière.
Oui, vous racontez qu'il y avait des files, une file d'attente gigantesque de banquiers et d'industriels qui étaient là, qui avaient envie de le voir.
Ben oui.
Et puis, comme il y avait un embouteillage dans les couloirs de l'Élysée. Encore un tout petit truc sur ce que gouvernement veut dire. Vous racontez un déjeuner entre Angela Merkel et François Hollande. Ouais. Juste sur Angela Merkel, vous dites, elle a des tas de petites fiches avec les mots-clés, etc. Ouais, alors que François Hollande, il a des piles de notes faites notamment par vous et votre cabinet. C'est ça la différence ?
La différence, c'est notamment ça. Alors, les piles de notes, il les connaît par cœur, donc il n'a pas besoin d'ouvrir le dossier. Il connaît parfaitement son dossier. Et Angela Merkel, c'est vrai, elle est très allemande, hein, très organisée, des petites fiches comme ça, voilà. Et donc, c'est des échanges qui sont absolument passionnants, entre, surtout quand vous êtes observateur, parce que c'est quand même les chefs d'État et de gouvernement qui parlent. Là aussi, vous savez, les conseillers, ils peuvent faire les malins. Ils ne sont que les conseillers. Et donc, il y a une discussion entre les deux où vous voyez des personnalités extrêmement différentes, très complices d'ailleurs à l'époque, mais des personnalités complètement différentes. Et ces moments-là que j'évoque, c'est des petits moments juste en dessous de la grande histoire qui montrent comment fonctionne. Moi, c'est un peu ça que j'ai essayé de faire. Comment ça marche, l'État comment
vous
ça marche
assez bien
aujourd'hui, voilà. Alors, tout le monde le fait par des stats, par des analyses juridiques.
C'est tranche de vie.
Voilà, on va le raconter.
Et justement, on va peut-être finir là-dessus, même si on attend, j'ai encore une petite question. Le soir, un jour triste, le soir où donc François Hollande vous décore, en l'occurrence, mais l'ambiance est infiniment triste parce qu'il va annoncer dans ce studio que vous dites lugubre, où il va annoncer le fait qu'il ne se représente pas. Comment vous avez vécu ce moment-là ?
Pas bien, j'étais très triste. Moi, j'ai beaucoup de respect, d'affection pour François Hollande. Je pense d'ailleurs que son quinquennat sera réhabilité au fur et à mesure du temps. Je m'y attendais pas. En fait, je m'y attendais pas.
Alors, vous ne le saviez pas, si vous
non,
le saviez.
Je pas. Non. Et d'ailleurs, la plupart des gens, la quasi-totalité de ceux qui étaient là ce jour-là dans le grand
salon, quand ils vous décorent, ne savaient pas. Quand vous êtes secrétaire général de l'Élysée, vous ne le savez pas.
Non, je le sais pas.
C'est incroyable.
Non, je le sais pas. Ouais. Et le président, sans doute sa petite équipe rapprochée qui avait prévu l'intervention télévisée, elle savait. Moi, je le savais pas. Et donc, on s'est vu avec quelques amis, des anciens, des vieux combats du début du quinquennat. Effectivement, quand le président de la République a annoncé, on était quand même triste. Un peu en clair en même temps, mais triste.
Tout dernier point, juste vous raconter le fait que vous avez été au cabinet de Gaston Godefer, en l'occurrence, grande loi de décentralisation. C'est ce qui manque là aujourd'hui. À la fin, je dirais, c'est presque ce qu'on peut retenir de la première partie de votre livre, c'est-à-dire c'est vraiment vous plaider pour qu'il y ait de nouveau un ministère de l'équipement, un Datar, enfin, il y ait une vraie politique du territoire.
Moi, je crois qu'il faut un nouvel élan de décentralisation. D'ailleurs, le gouvernement d'Édouard Philippe l'a annoncé, y compris en n'excluant pas une réforme constitutionnelle. Il faut un nouvel élan de décentralisation. C'est comme ça qu'on apportera une vraie réponse au blocage de l'État.
Merci beaucoup, Pierre-René Lemar. Voilà,
merci.
C'était intéressant. Vraiment, c'est le gouvernement de l'intérieur. Moi, c'est ça qui m'a plu, des princes et des gens. Et vous êtes plutôt du côté des gens, même si vous avez été un prince. Ce que gouverner veut dire. Et c'est publié aux éditions du Seuil. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve, bien sûr, demain, 8h15, 12h, 13h. Bonne journée.